With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
La philosophie peut-elle nous aider à être de meilleurs sportifs, réussir nos défis et devenir champion du monde de notre monde? J'en ai discuté avec mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement, d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je vous partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirante. D'ailleurs, si votre défi est de courir un marathon, je vous invite à télécharger mon ebook gratuit avec mes 9 erreurs qui m'ont empêché d'être au départ de mon tout premier marathon. Bah oui, le marathon qui a donné naissance à ce podcast. Et bah, j'ai pas pu le courir et je vous explique pourquoi. Je vous donne aussi quelques conseils complémentaires. Vous pouvez le télécharger à km42.run/9erreurs. km42.run/9erreurs. Je le dis aussi, c'est qu'il peut sûrement vous aider aussi si votre défi c'est de courir un semi-marathon, peut-être un 10 km ou peut-être de courir aussi de longues distances. Si vous écoutez mon autre podcast Sport et Nutrition, vous avez déjà entendu mon invité Lilian Doza. Avec Lilian, nous avions discuté de ses micro-défis, de ses plus grands défis comme le Tour de France à vélo ou de son grand défi, la traversée de l'Atlantique à la rame en duo. Et si nous avions parlé de ses repas, des poissons volants, nous n'avions pas parlé du livre qu'il avait amené sur le bateau entre les centaines de barres protéinées et les repas lyophilisés. Ce livre, je l'ai à la maison, il est sur ma table de chevet. Ce sont les pensées à moi-même de Marc Aurèle suivi du manuel d'Épictète, un grand classique du stoïcisme. Dans un billet de blog, j'ai découvert comment ce livre et cette philosophie avaient aidé Lilian à traverser l'Atlantique à la rame. Alors je l'ai invité à venir discuter de cette philosophie, de ces pensées qui ont plus de 2000 ans mais qui semblent tellement contemporaines. Je dois vous dire que c'est un sujet que j'ai longtemps voulu traiter car je pense que la philosophie, le stoïcisme en particulier, peut nous aider à nous entraîner, à entreprendre, à relever nos défis, à vivre mieux au quotidien, à vivre aussi nos réussites et nos échecs et les regarder sous un autre angle. C'est ce que vous allez découvrir dans cette discussion avec Lilian. Allez, c'est parti. Bonjour Lilian.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu ?
Je vais très bien, je te remercie.
Je suis très très heureux de te retrouver parce que la dernière fois qu'on a enregistré un épisode, tu m'avais mis une pêche, un moral. Et puis je sais que chez les auditeurs, tu nous as tous fait partir en micro-aventure, en... Enfin, et encore que pour l'instant c'est la micro-aventure, mais je suis pas sûr que certains ne nous aient pas décidé à faire des grandes aventures.
Écoute, j'espère. Au moins si ça a permis de faire passer à l'action, quelle que soit la taille de l'aventure, franchement, déjà, c'est gagné.
Et puis, je vais même te dire un truc, c'est que j'ai même eu des échos comme quoi il y a des gens qui n'écoutent pas des podcasts, qui étaient accrochés, qui ont bu tes paroles, qui voulaient vraiment tout savoir, etc., tu vois. Non. Et puis, vraiment, c'est un épisode, je le dis, donc je renverrai, c'était sur Sport et Nutrition, qui était vraiment très marquant. Mais vraiment, on ne va pas reparler de tout ça, parce qu'on en a parlé en long, en large, presque en travers, j'ai envie de dire, dans tes micro-aventures, la traversée, etc. Mais en fait, il y a un truc qui m'avait intrigué il n'y a pas longtemps, c'est que tu as fait un post, j'ai vu passer ça, je ne sais pas comment, en tout cas j'ai vu passer, du stoïcisme pendant la traversée de l'Atlantique. Alors, ça, c'est le sujet quand j'ai vu ça, et ça fait des mois et des mois que je tourne autour, que je cherche à aborder ce sujet-là, je me suis dit, Lilian, hop, faut que je le rattrape par la peau de je sais pas quoi, hop, que je le ramène ici quelques minutes avant qu'il s'en aille, je ne sais pas où, parce que peut-être t'es encore parti dans des aventures je ne sais où.
Non, pas pour le moment. Non, je bouge pas trop là en ce moment.
Donc je me suis dit, bon, quand même, on sait jamais, je vais vite essayer de l'attraper pour qu'il me parle de cette notion-là de stoïcisme, parce que c'est vraiment un sujet qui, moi, je pense que quand on fait du sport, quand on entreprend, quand on fait plein de choses, en fait, ça nous amènerait à une autre vision du monde et de ce que l'on fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Je suis à 200% d'accord avec ça. Vraiment.
Ah, ça tombe bien. Alors, la question que je me suis posée, parce que j'ai vu une photo d'ailleurs, tu vois, j'ai sorti mon petit Marc Aurèle, j'ai devant moi là, tu connais bien là et tout. J'ai vu une photo, ouais. A priori, la photo l'est prise sur le bateau.
Ouais.
Mais est-ce que tu l'avais pendant la traversée de l'Atlantique ?
Je l'avais pendant la traversée atlantique et je l'ai toujours avec moi.
Toujours avec toi.
Toujours dans mon sac. Voilà. Tout comme j'ai toujours mon ordi avec moi, j'ai toujours mon livre qui fait la compilation de Marc Aurèle, Les Pensées et du manuel d'Épictète.
Toujours. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que quand on traverse l'Atlantique quand même, et puis avec son coéquipier, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de place, etc. Alors, tu nous avais expliqué toutes ces histoires de place, c'était marrant. Donc, il y avait quand même la place pour le livre.
Il y avait quand même la place pour le livre, et celui-ci en particulier, bon, pour plein de raisons, mais d'un point de vue pratique, celui-là, il a ce truc que tu peux l'ouvrir à n'importe quelle page, au hasard, et lire un paragraphe et t'arrêter. Et il n'y en a pas beaucoup des livres comme ça. Donc celui-là, il avait cet avantage-là.
Ouais, même si j'ai envie de te dire quand même qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, à mon avis, sont arrêtés à la première page.
Peut-être, j'en connais pas beaucoup. Après, je ne connais pas beaucoup de gens non plus qui l'ont lu du début à la fin. Je sais que c'est un sujet, effectivement, dont on entend plus ou moins parler, mais qui revient parce que alors, peut-être qu'il est à la mode ou je sais pas. Mais voilà, c'est que je me pose toujours la question de finalement combien de gens lisent vraiment ce livre-là de bout en bout. Celui-là ou le manuel qui pour le coup est encore plus simple à lire parce qu'il est encore plus petit que les pensées.
Oui, et en fait quand je disais qu'on s'arrête souvent à la première pensée, c'est je pense souvent dans le manuel d'Épictète en fait, on s'arrête souvent à la première.
Oui, peut-être, après je pense que ce qui conditionne beaucoup aussi la lecture, c'est comment tu es arrivé à ce livre-là. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu vas à la librairie l'acheter et que tu te poses dans ton canapé et que tu l'ouvres?
Alors comment t'es arrivé toi?
Eh ben moi, écoute, c'est assez rigolo, enfin, en tout cas moi ça me fait sourire, parce que moi je suis un cartésien, un scientifique de toujours, et donc j'ai fait un bac S à l'époque où ça existait encore. Et au lycée, je me souviens qu'il y a un truc dont je ne me souviens pas, justement, c'est mes cours de philosophie. C'est-à-dire que j'ai fait un blackout complet. Je n'ai aucun souvenir du moindre cours. Je n'ai même pas de souvenir de mon épreuve de bac de philo.
Attends, tu vas me dire que même la caverne, tu ne te rappelles pas de la caverne?
Rien. Le seul souvenir que j'ai de mon cours de philo, c'est que j'étais dans un lycée privé et que la prof qui est entrée dans la salle le premier cours en première, c'était une sœur de l'école où j'étais. Et je me suis dit, comment on peut faire de la philosophie en étant religieuse? Il y avait pour moi un conflit d'objectivité. Alors je me suis peut-être lamentablement planté, très probablement. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça a participé au blocage et donc je ne garde véritablement aucun souvenir de ça. Et donc voilà, j'ai suivi après mes études d'ingénieur, j'ai attaqué ma carrière, etc. Et je me suis toujours considéré hyper cartésien, pragmatique, etc. Et puis un jour, je ne sais pas te dire comment, mais un jour, je me suis dit, tiens, si je devais m'intéresser un minimum à ce que c'est que la philosophie, comment je m'y prendrais? Et donc, j'ai tout simplement demandé à Google et je suis tombé sur une page qui disait, ben voilà, si vous voulez démarrer à vous intéresser un petit peu à la philosophie, conseillez 5 bouquins, dont le manuel et les pensées, et puis 3 autres dont j'ai oublié le titre. Et je me suis dit, ben allez, fiche, je vais aller sur Amazon, j'ai commandé, le lendemain c'était chez moi, et j'ouvrais pour la première fois ces livres-là. Voilà comment ça s'est passé.
Et tu as trouvé quoi dedans? Parce que finalement, tu t'attendais à y trouver quoi? Et qu'est-ce que tu as trouvé dedans finalement?
Eh ben, je ne sais pas exactement ce que je m'attendais à y trouver, mais j'y ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai découvert des pensées, pas seulement dans les pensées, hein, mais des idées, que j'ai trouvées d'une modernité et d'une actualité, mais juste incroyable. C'est-à-dire qu'on m'aurait dit que ces bouquins venaient de sortir en librairie, je l'aurais cru. Les idées sont tellement simples, sont tellement d'une évidence incroyable et elles s'appliquent tellement à tout ce qu'on a dans nos vies de tous les jours que c'est vraiment ce qui m'a interpellé, ce qui m'a scotché même. Et ensuite, cette construction de ces livres qui sont cette succession d'idées qui fait qu'on ne part pas dans 20 pages où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, où ça risque d'être très compliqué et vaseux et tout ça. Non, c'est hyper pragmatique. Tu as des pensées qui sont sur 2 lignes. T'en as qui sont allées sur une page. Mais voilà. Donc, ça m'a paru extrêmement accessible, extrêmement parlant et surtout extrêmement applicable. Là où je pense que j'avais une vision de la philosophie d'un truc hyper conceptuel qui est complètement dissocié de la vie de tous les jours.
Oui, alors dans la modernité, quand même, faut préciser en quelle année ils ont vécu Marc Aurèle et Épictète, hein.
Ouais, en plus, eux, c'est les derniers stoïciens, donc c'est, je sais plus, 300 après Jésus-Christ, et ça a commencé bien avant, et il y a assez peu d'écrits, justement, des précédents. Donc voilà, il faut se dire que Marc Aurèle, il écrivait ses pensées dans sa tente le soir sur le champ de bataille, pour lui, hein, c'est pour ça que ça s'appelle les pensées à moi-même. Et aujourd'hui, 2021, on ouvre ce livre et vraiment, c'est des trucs qu'on peut appliquer là tout de suite maintenant.
Ouais, alors je viens de te dire un truc, c'est que c'est encore plus vieux que ça. Ils font partie de ces gens qui ont une date de naissance à trois chiffres seulement. Une année de naissance à trois chiffres. 180, il est mort. Le 17 mars
Ouais,
180,
tu
il est
vois.
mort. Il était,
Ouais.
alors, il est né le 26 avril 121, tu vois, comme quoi cette année on aurait pu fêter ses 2000 ou 1900, je sais pas quoi. Si toi qui es bon en maths,
1900.
tu me diras. On aurait pu fêter un centenaire, un millénaire de sa naissance, en tout cas, le 26 avril, tu vois. Peut-être qu'il y a une fête à inventer, hein, peut-être que, d'ailleurs, peut-être que certains l'ont fêté, j'en sais rien.
Il est peut-être plus là.
Mais effectivement, hein, la modernité avec laquelle les concepts s'appliquent est stupéfiante.
Ouais, et un des premiers constats que j'ai fait quand j'ai lu, c'est de me dire, en fait, tous les coachs en développement personnel, en fait, n'ont rien inventé, quoi. Et que finalement, tous ces différents, j'ai eu l'impression, tout d'un coup, que tous les messages qu'on peut recevoir du développement personnel ou de plein d'autres choses, finalement, à chaque fois, c'est le même message. C'est juste qu'il est conditionné, il est packagé différemment. Parce qu'il va aller vers des cibles différentes, etc. Mais vraiment, cette sensation qu'en fait, il y a une espèce de message absolument universel et qui en fait se retrouve aujourd'hui, ici et là, voire même peut-être dans la religion, tu vois, si on essaie de voir, on est encore plus large, de dire bah, finalement, est-ce que la religion, c'est pas juste un packaging différent de ces mêmes idées, quoi. Voilà, donc, c'est vraiment toutes ces réalisations qui m'ont vraiment scotché à la réception de ce livre et qui fait que depuis, voilà, je m'y suis intéressé de plus en plus et j'ai vraiment essayé et je suis toujours dans cette logique d'essayer de toujours plus appliquer parce que j'en mesure les bénéfices que ça apporte.
Ouais, bon, et là j'ai une pensée quand même parce que ta bonne sœur, philosophe du lycée, si tu lui dis que la religion finalement c'est un repackaging des pensées de Marc Aurèle, je sais pas quelle tête elle fait.
Évidemment, je caricature à l'emporte-pièce le concept. Mais bon, la question se pose parce que les idées, elles sont quand même intervenues bien avant ce fameux an zéro. Et quand on fait aussi l'exercice d'essayer d'aller chercher, de faire des comparatifs avec des choses comme le bouddhisme, par exemple, on peut aussi retrouver des similitudes assez impressionnantes. Après, on dit aussi que souvent, on trouve ce qu'on cherche. Mais quand même, voilà, il y a des choses vraiment intéressantes, du moins à observer et à creuser pour ceux qui le souhaitent.
Mais tu sais, même d'ailleurs, l'autre jour, je me suis fait un peu la réflexion, c'est que j'ai fait un épisode sur les accords Toltec appliqués à la course à pied. Et je regardais un petit peu là, ton billet de blog là, sur lequel bah, j'avais repéré que tu parlais du stoïcisme et que tu étais parti en bateau avec ton petit livre. Il y a des choses dans les accords Toltec qui, c'est un carton mondial, hein, ils en ont vendu des millions d'exemplaires. Et ben, en fait, je trouve qu'on se rapproche aussi des pensées, tu vois, dans cet
Tout à
esprit-là.
fait.
Et notamment, j'ai l'impression, c'est notamment le sentiment d'essayer de faire de calmer son esprit.
Ouais, tout à fait. Effectivement, il y a de ça. Et il y a vraiment alors je sais pas comment ça se rapproche des accords, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas remis le nez dedans, mais il y a cette idée, pilier fondamental, de dire, en fait, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui n'en dépendent pas, et si elles dépendent pas de nous, en fait, bah, elles n'ont aucun pouvoir sur nous. Aujourd'hui, on leur en donne plein de pouvoir, mais en fait, il faut reconnaître qu'elles n'en ont aucun, et en fait, ça a cet effet de calmer la pensée. Mais effectivement, ça serait intéressant que je les relise, parce que je pense qu'il doit y avoir plein de parallèles intéressants.
Oui, parce qu'en fait, dans les accords Toltec, en fait, il n'est pas trop sur ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, mais il dit que déjà, si on se foutait la paix en essayant de dire du mal de nous, notamment quand certaines choses bah, dont on peut rien faire, finalement, interviennent, ou même des choses qui, à la limite, sur lesquelles on peut agir, mais sur lesquelles peut-être des mauvaises pensées ou une manière de voir les choses qui est un petit peu compliquée. Et puis toi, ton truc ingénieur, là, tu nous avais parlé comment tu décortiquais tes projets. Donc toi, c'est décortiquer tout ça, y repenser, c'était quelque chose dont on avait bien parlé. Mais finalement, ça se retrouve un petit peu, cette notion-là de dire finalement aussi, on a cette rumination interne, ce discours interne. Et puis, enfin, toi, quand vous avez traversé l'Atlantique, vous avez, j'ai pas dire envie, presque que ça, mais... Finalement, tu rames la moitié de la journée presque tout seul parce que ton coéquipier il dort ou je sais pas ce qu'il fait pendant ce temps-là. Donc le temps, ton cerveau, il y a un moment donné, et franchement, il peut partir dans n'importe quel sens.
Ouais, il peut partir dans n'importe quel sens. Mais tu l'as dit, tu as utilisé les bons mots. C'est on a des manières de voir. Et en fait, ça c'est un des piliers très forts. C'est de, je sais plus quels sont les mots que les philosophes ont utilisés, mais c'est vraiment de se méfier de ces représentations. Et en fait, de reconnaître, et là, moi, quand je fais appel à justement ce passé plutôt, enfin ce passé, cette actualité encore plutôt orientée scientifique et cartésienne, c'est cette notion qu'en fait, quelque part, la réalité, il n'y a pas de notion de réalité. La réalité, ça n'existe pas. Elle n'existe que parce qu'à un moment, on vient y coller des conventions, là, je parlais avec mes filles, je leur montrais un petit peu des trucs d'optique, là où on fait avec des prismes, des arcs-en-ciel, des choses comme ça. Et en fait, je leur disais, par exemple, la notion de couleur, la couleur, ça n'existe pas en vrai, en fait. C'est juste que des matériaux vont plus ou moins absorber des longueurs d'onde et qu'elles vont nous en renvoyer d'autres et tout, et que nous, notre cerveau va interpréter ça comme un bleu, un rouge, mais qu'en fait, ça n'existe pas. Mais comme on le connaît depuis le jour où on ouvre les yeux, on se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Et ça adresse vraiment spécifiquement ce point, cette logique stoïcienne, c'est de dire attention, en fait, soyez très prudent avec vos représentations que vous avez de l'extérieur, mais aussi de vous-même à l'intérieur, pour justement faire le tri entre tout ça et réaliser qu'en fait, très souvent, on se base sur des avis, sur des opinions, et que l'opinion, en fait, il suffit de la chasser. Mais vraiment, il suffit, en fait. C'est tellement simple que ça paraît bizarre, mais en fait, voilà, il suffit de se dire, en fait, là, j'ai juste une opinion, je peux l'effacer et passer à autre chose. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment la manière de voir les choses.
Toi, en plus, qui es entrepreneur, je suis sûr que tu as un jour lu cette Godin.
Est-ce que je l'ai lu? Je crois pas. J'ai écouté pas mal de podcasts et vu de vidéos à qualité revenue, mais non, il me semble que je... Non, je crois pas que je l'ai lu.
Bon, il est un peu comme Marc Aurèle et Épictète, c'est des petits passages courts, etc. Tu sais, ça reprend un peu le même concept d'avoir des trucs courts. Ouais. Mais il dit en fait qu'on a tous une histoire dans notre tête et que finalement, le monde, c'est les histoires qu'on se raconte dans notre tête et que notre vision du monde, et c'est là aussi, on revient sur ces logiques-là, ce sont toutes les histoires qu'on se raconte. Et quand entrepreneur, d'ailleurs, toi, t'es dans l'entreprise, quand tu la lances, tu racontes une histoire, et puis les gens qui la reçoivent ont une histoire dans leur tête, et comment les deux vont se mettre ensemble. Et c'est aussi ça, finalement, la représentation du monde, et de quoi il faut se méfier.
Bien sûr, ouais, c'est tout à fait ça. Et dès qu'on se pose un peu la question, on réalise qu'effectivement, tout n'est que représentation. Absolument tout. Ouais. Et du coup, ça m'a amené à plein d'observations et de questionnements hyper intéressants. Et c'est vraiment de ce point de vue-là, je dis que j'ai été vraiment époustouflé par le pragmatisme et le côté applicable là tout de suite maintenant de ces concepts.
Alors, ce qui était intéressant dans dans le billet de blog, là, que je mettrai le lien pour que comme ça les gens verront bien, mais tu cites en fait des passages, des phrases sur lesquelles tu puises finalement des. Tu dis quelques pensées salvatrices.
Ouais.
Est-ce qu'il est intéressant hein, de dire. C'est parce que pourquoi tu les appelles salvatrices en fait?
Ben, je les appelle salvatrices parce que par exemple, tu vois, il y en a une. Que je me répétais souvent parce qu'elle est hyper courte et c'est celle qui dit, je crois que c'est une des premières qui était sur le billet de blog, c'est Marc Aurèle qui dit que donc il dit exactement, enfin dans la traduction il dit: la perfection morale consiste en ceci: à passer chaque jour comme si c'était le dernier, à éviter l'agitation, la torpeur et la dissimulation. Ce truc-là, il est. Alors, tu peux en faire une belle citation, un beau post Instagram, et tu le balances et ça fait des likes avec une belle photo derrière. Ou alors, le jour où tu l'infuses vraiment et que tu l'appliques, eh ben, ça change ta journée. Et sur l'Atlantique, quand tu sais pas pour combien de temps tu pars, tu sais pas si c'est 30, 60, 80, 90, en te récitant ça, en te ramenant à ça, tu te dis, là, la seule chose que je dois faire, c'est de faire de ce moment, de ce jour-là, comme si c'était le dernier. Et si c'était le dernier, qu'est-ce que je ferais? J'essaierai de tout faire le mieux possible. Donc, ce quart de rame, je vais essayer de le ramer le mieux possible. Quand j'appellerai mes filles ce soir au téléphone, je ferai un appel qui a du sens, où on va se dire des vraies choses, où on va éviter les banalités, etc. Et donc, ça donne un guide sur vraiment s'appliquer à faire les choses de la manière la plus juste pour se dire, si finalement ce soir, il y a une vague qui nous emmène au fond, je ne pourrais pas regretter de ne pas avoir fait certaines choses aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une maxime que j'ai emmenée avec moi et que je me suis répétée au moins sur toute la moitié de la traversée, parce que la première moitié de la traversée, c'est vraiment de l'adaptation physiologique, mentale et tout, où tu n'as pas trop le temps de chercher à faire autre chose. Et vraiment, ça a été salvateur d'avoir ces pensées-là sur la traversée.
Ouais, mais tu vas faire de son mieux possible aussi. Là aussi, tu retombes en fait sur les accords Toltec. Tu vois, quand je te dis que tout se recoupe en fait un petit peu.
Ouais.
Mais c'est vrai que cette pensée là de chaque jour, passer chaque jour comme le dernier, on le retrouve à tellement d'endroits. Mais tellement d'endroits, et tu le dis, chez les coachs, etc., mais dans les films, dans combien de trucs on retrouve cette pensée-là, c'est énorme, quoi.
Ouais, c'est énorme, et je réalise aujourd'hui, le truc qui est énorme, et où on se dit, zut, un peu, c'est que ce truc-là passe chaque jour comme si c'était le dernier. Je veux dire, on l'entend tous depuis qu'on est gamin. On voit tous des publis sur tous les réseaux sociaux qui te poussent des idées comme ça. Donc tu te dis, en fait, ce truc-là, je l'ai déjà vu, relu, re-entendu. Mais en fait, tant que je ne ferai pas moi personnellement le chemin qui m'emmène à ce truc-là, je ne le comprendrai pas. Enfin, c'est pas facile, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce truc-là, je le lis, je le sens au fond de moi, comme vraiment un truc. Enfin, voilà, je sens qu'il est vraiment en moi. Et en même temps, je me dis, ça peut passer sous les yeux de n'importe qui, et ça fera rien parce qu'on n'a pas fait le même chemin. C'est vraiment très très surprenant.
Oui, bon, et après, rassure-moi, il n'y a pas qu'au milieu de l'Atlantique que tu as cette pensée-là, parce que...
Non.
Parce que finalement, c'est ça qui est applicable à tous les jours, c'est-à-dire que tu dis, une vague peut nous amener au fond, mais au quotidien, il peut nous arriver n'importe quoi, enfin...
Bien sûr, non, au quotidien, non, mais tout à fait. Moi, si tu veux, cette traversée, quand je suis parti la faire, je me suis dit, faisant un stage... de stoïcisme. Je me suis dit, ça va être l'occasion rêvée de vraiment essayer d'appliquer ça et de voir ce que ça donne. Donc, ça faisait déjà plusieurs mois, ceux que j'avais découvert, cette philosophie, je m'y étais intéressé, je commençais à l'appliquer, etc. Mais je me suis dit, là, c'est génial, je peux vraiment pouvoir y aller à fond. Et de ce point de vue-là, ça a été génial. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de ce billet de blog qui, au départ, en fait, était juste un post Facebook sur la page de ce blog. Et tout de suite, ils m'ont demandé si on pouvait le transformer en article. Et vraiment, quand j'ai listé, je sais pas, d'avoir 6 ou 8 idées dans ce billet, je les avais vraiment avec moi tous les jours, vraiment. Ouais. Et effectivement, par contre, aujourd'hui, tu vois, ce truc de dire, tiens, imagine qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est un truc que oui, je m'applique aujourd'hui très régulièrement. Et ça veut dire quoi au quotidien? Ça veut dire que quand mon réveil il sonne et qu'il est 5 heures et que en fait je suis défoncé et j'ai bien encore envie de dormir, c'est de me dire en fait ce soir si ça doit s'arrêter, je vais peut-être regretter en fait de pas m'être levé. Alors je m'étais dit que j'allais le faire, que j'avais tel objectif pour ma journée. Donc allez, je me lève et j'y vais. Et donc oui, évidemment au quotidien, pas besoin d'aller sur l'Atlantique pour pouvoir faire ce chemin-là. C'est évidemment applicable partout et tout le temps.
Voilà. Donc à 5 heures du matin, tu te lèves, je vais aller courir, je vais aller faire mes exercices et tout. Enfin.
Ouais. Oui, ça ou autre chose, peu importe, même tout bêtement, un appel pro que t'as pas envie de faire, il y a un moment, c'est de te dire, si dans 2 heures je dois partir, en fait, j'aurais peut-être envie de partir en me disant, j'avais pas envie de le faire, mais je l'ai quand même fait, et au moins ça c'est fait.
C'est vrai que c'est un truc qui est intéressant et notamment aussi, tu vois, il y a, pour continuer sur ce que tu dis, il y a la relation au corps parce que dans ton stage de stoïcisme, t'as pas pris le stage le plus facile en fait, hein. Il y en a, ils vont faire une. Non, mais je veux dire, il y en a, ils vont faire 3 jours de silence dans un monastère. Déjà, ça me semble compliqué. Il y en a, ils vont faire 5 jours de jeûne. Ça me semble encore plus compliqué. Il y en a, ils vont s'enfermer 2 heures dans une salle où il y a pas, où, en laissant leur téléphone à l'accueil. Toi, t'as pris le truc, 50 jours, à travers l'Atlantique, avec un pote, on rame, on rame, on rame, on rame. Bon, c'est peut-être pas l'option de stage, tu vois, que tout le monde va prendre,
Non,
mais il y a une dimension physique. Et tu le dis, parce que c'est un point, un des points que tu as abordé, c'est que finalement, l'expérience physiquement, elle est extrêmement difficile, et que là aussi, tu trouves, finalement, dans le stoïcisme, des éléments pour le considérer, quoi, pour t'en servir.
tout à fait. Alors, déjà, juste, je précise que c'est pas en voulant faire un stage de stoïcisme que j'ai décidé de traverser l'Atlantique. C'est parce que je traversais l'Atlantique que je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas l'utiliser pour en faire un stage de stoïcisme?
Ouais, mais ça, quand tu créeras un truc, tu sais, un peu gourou dans quelques temps, etc., tu pourras renverser le truc, tu sais, quand tu créeras ton stage de stoïcisme
Pardon.
en disant traverser
Pardon.
tel truc, tu verras,
Pardon, j'avoue.
on trouvera un truc pour le réécrire l'histoire. Tu sais, c'est un peu Ryan
Parfait.
Holiday qui a mis au goût, toi qui es
Ouais,
entrepreneur.
tout à fait.
Et le stoïcisme, il en a fait beaucoup, puis il gagne beaucoup d'argent avec cette histoire-là. Quand
Tout
tu
à
vois
fait.
comme il re-raconte les choses un petit peu, c'est un petit peu rigolo autour du stoïcisme. Et je pense qu'il fait aussi beaucoup partie de ceux qui, dans le domaine entrepreneurial, a beaucoup relancé aussi la vision de ça.
Ouais,
Donc,
ça va.
revenons-en au corps quand même, parce que cette histoire de
Oui.
dire, oui, c'est finalement dans le sport, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de dire qu'il y a des moments où c'est physiquement difficile. Mais là
Tout à
aussi,
fait.
c'est une question de représentation où on peut le voir de différentes manières.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, alors oui, la douleur, par exemple, bah, la douleur, c'est pas la réalité. La douleur, c'est la représentation qu'on se fait d'un signal que notre cerveau reçoit parce qu'il veut nous protéger de quelque chose. Et ça, il y a des exercices de prépa mentale pour justement, au travers de cette visualisation de ce n'est qu'un schéma électrique, etc. Ben, on arrive à réduire ça. L'hypnose, par exemple, pour remplacer des anesthésies, des choses comme ça. Donc, ça montre qu'effectivement, il y a une part aussi de représentation. Donc, effectivement, il y a ce volet-là. Il y a le volet qui est dur à accepter, même moi encore aujourd'hui, pourtant ça fait maintenant des années que je suis dans ces livres-là, c'est que pour les stoïques, ton corps fait partie des choses que tu ne contrôles pas. Donc, si ça fait partie des choses que tu ne contrôles pas, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire que tu te blesses, que tu perds une jambe, que tu meurs, ce n'est pas un sujet. Et au fond, je crois qu'effectivement, c'est vrai, mais c'est très dur à accepter. Surtout quand on fait du sport et que bah, le corps, c'est un sujet, puisqu'on veut le retenir, on veut le faire performer, etc. Donc, ça pose cette question-là et bah, ça va permettre sur l'Atlantique aussi, bah, justement, cet aspect, par exemple, gestion de douleur, gestion de se dire, bah, oui, en fait, OK, il y a tout ça, mais ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas de continuer. Et ça, c'est matérialisé au travers de cette autre pensée de Marc Aurèle, où il dit, pareil, texto dans la traduction, il est honteux que dans le temps où ton corps ne se laisse point abattre, ton âme, en ce même moment, se laisse abattre avant lui. Et c'est cette idée de dire, en fait, souvent, enfin, quand on applique au sport, c'est de se dire, à un moment, je vais craquer. Et à un moment, je vais décider d'arrêter parce que je vais utiliser comme excuse, et j'utilise ce mot exprès, j'utilise comme excuse que j'ai trop mal, que j'ai trop ci, que j'ai trop ça. Et en fait, moi, cette pensée, sur l'Atlantique, je la vois vraiment comme, bah oui, en fait, tant que mon corps n'est pas immobilisé, qu'il ne peut plus rien faire, il n'y a aucune raison que mon esprit craque, que mon esprit abandonne le fait de retourner ramer, le fait de continuer à attendre cette ligne d'arrivée. Donc pareil, là, sur ces pensées, je pense que sur le sport, ouais, on peut trouver plein de choses, plein de matières à extraire, bah, pour à la fois se préparer, mais aussi tenir dans les moments qui viennent très compliqués.
Oui, parce que forcément, il y a des moments compliqués. Et puis bon, là, on parle de l'Atlantique, mais tu avais fait le Tour de France en vélo. Je ne sais plus combien ça faisait de kilomètres.
4 800, je crois.
Bon, j'imagine qu'au bout de quelques centaines de kilomètres, tu as les fesses quand même qui commencent un petit peu à chauffer. Les jambes sont pas si bien que ça. Tu avais déjà Marc Aurèle dans ta besace?
Non, à cette époque, je ne l'avais pas. Je l'avais pas et ouais, c'est vraiment sur l'Atlantique que je l'ai utilisé pour la première fois. Mais voilà, aujourd'hui, je retourne rouler, je l'ai en tête. Tu vois, alors, tu vas rigoler, mais la dernière sortie que j'ai fait à vélo, je m'étais dit, allez, je tente Aix-en-Provence, sommet du Ventoux, Aix-en-Provence. Bon, ça fait 250 bornes, avec le Ventoux au milieu, donc ça fait 4000 mètres de dénivelé, ça fait une belle sortie. Mais voilà, typiquement sur cette sortie, forcément, il y a un moment, t'as mal, il y a un moment, c'est dur. Voilà, de se rappeler certaines de ces pensées, de se les rappeler, mais pas juste de se les réciter bêtement, de se les rappeler et de les ressentir, c'est se dire à un moment, ok, là j'ai mal aux fesses parce que je suis en fait depuis trop longtemps. En fait, je vais juste l'accepter parce que je peux rien y faire en fait. Je vais l'accepter, je vais faire ce qu'il faut pour essayer de l'oublier ou au moins de le minimiser. Et je vais me concentrer sur ce qui est en mon contrôle. Et ce qui est en mon contrôle maintenant, c'est d'appuyer encore une fois de plus sur la pédale. Pas 10 fois, non, juste une fois. Et puis après, je rappuierai encore une fois. Et encore une fois. Voilà.
C'est drôle parce que ça me rappelle ce que je me suis dit pendant mon marathon quand j'étais dans le mur au 36e kilomètre où j'avais cette ligne verte devant moi et je dis tous les ne fais juste un pas juste sur ta ligne, une fois un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Ce qui m'a conduit péniblement au 40e et tout d'un coup le monde s'est ouvert devant moi en disant oh, je suis arrivé ou presque.
Non, mais je pense qu'on se l'est tous dit, on l'a tous vécu ce truc, et ça fait partie des conseils de prépa mental niveau 1. Voilà. C'est concentre-toi sur le moment présent, ce que tu as à faire là tout de suite, cette respiration, ce pas, etc. Mais c'est là où ce que je te disais tout à l'heure en intro, il y a vraiment, pour moi, à l'ouverture de ces livres, cette réalisation, ou cette impression en tout cas, que finalement tout ce que j'entends depuis toujours, ça existe depuis bien plus longtemps que ce que je pense, et c'est juste conditionné différemment.
Oui, mais tu vois, là, ce que tu dis, en fait, c'est ça où tu dis, il y a différence entre voir ce qu'on s'est écrit, même les lire, etc., et puis les intégrer, en fait, parce que ces citations-là, ces phrases, comme tu dis, sur Instagram, c'en est rempli. Enfin, à la journée, tu peux avoir 10 fois la citation qui a passé avec 10 photos différentes, etc. Mais quand tu es dans ta séance, et moi, tu vois, je pense à mes séances sur piste, par exemple. C'est dur une séance sur piste, tu sais, où je dois aller faire 10 fois 400 à une vitesse précise, etc. Au bout d'un moment, moi, j'en ai. À la 7e répétition, j'en ai toujours marre. Et là, je me dis, et c'est temps, tu vois, je ressorte l'histoire que tu me dis, parce que finalement, c'est juste mon corps qui me dit, attends, c'est pas très agréable le moment, mais je suis encore là, quoi.
Ouais, et c'est surtout ta tête qui entend ça et qui s'en accommode. C'est surtout ça. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça, une fois de plus, on l'a tous vécu, quoi. On l'a tous vécu. Et alors, je ne saurais pas de dire, tu vois, quel est le chemin qui, à un moment donné, fait que ça prend forme et que ça se matérialise en nous. Parce que je crois que ce chemin, il dépend de chacun de nous, évidemment. Mais même moi, rétrospectivement, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ce truc-là m'a impacté. Ouais.
Moi, je dirais que c'est l'âge.
Peut-être.
Non, mais
Ouais.
je le dis en blaguant, mais en vieillissant, tu sais, et quand j'étais un jeune couillon, tu sais, je me couchais super tard, je me levais super tôt, je dormais peu et tout, et j'avais un vieux. À l'époque, ça me paraissait être un vieux graphiste, tu sais. Et je dis, attends, et je mets vraiment, tu sais, des guillemets, et il me dit, tu sais, tu verras à 40 ans, il me dit. Tu commenceras à avoir des douleurs que tu connaissais pas avant, tu t'arriveras plus à te coucher tard et te lever aussitôt que maintenant, tu es plus vite fatigué, t'as des petits trucs comme ça. Et je dis, ouais, parle toujours papy, parle toujours papy. Et tu vois, maintenant j'en ai 44, et ben, je dis, putain, mais attends, il avait raison, le gars. Tu sais, il y a des trucs comme ça, et tu dis,
Bien sûr.
tu réfléchis à ton corps un petit peu différemment, tu as une logique différente. Moi, je dis, en ce moment, je suis toujours plus ou moins blessé, mais tu vois, l'épisode. Diffusé la semaine dernière, on a parlé de cette douleur, notamment avec l'invité, en disant qu'il y a des douleurs que tu peux apprivoiser, tu vois, où tu peux justement te dire, bon, bah, finalement, mon corps, il me dit qu'il y a une douleur quelque part, mais il me dit pas d'arrêter non plus.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Enfin, je trouve que le message, il est parfois, alors je disais, il est très moderne, très actuel, mais il est parfois aussi très dur à accepter. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure sur, finalement, il faut pas se soucier de son corps parce qu'il dépend pas de nous. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur le corps humain, on sait que si on fait des choses, on peut essayer de. Mais en fait, ça n'annule pas pour autant ce que disent les stoïques. Parce qu'on va tous finir par mourir un jour, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise. Et en fait, c'est juste l'histoire de la vie. Et justement, le stoïcisme est fort là-dessus pour amener à réaliser que ces choses qui nous font peur, et une fois de plus, on en revient aux représentations, en fait, il n'y a pas à en avoir peur. La mort, c'est juste un truc normal dans la vie. C'est juste normal que le corps, à un moment donné, il ait une douleur, c'est normal, on est fait comme ça. Voilà. Et donc, à un moment, c'est juste qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je l'accepte ou est-ce que je ne l'accepte pas? Et que finalement, s'il devait y avoir un seul objectif à atteindre au travers du stoïcisme, c'est ce que eux vont appeler, alors je ne sais pas quels sont les mots exacts mais qu'ils utilisent, mais c'est de progresser vers cette sagesse. Alors je sais, là j'ai oublié mon Dieu ce français qui justement est très connu dans le monde des stoïciens, où il dit qu'il a découvert le stoïcisme en prison et que grâce au stoïcisme il a extrêmement bien vécu la prison. Et il y a d'autres anciens militaires qui ont été pris en otage, etc., qui pareil ont utilisé des pensées ou des idées d'Épictète pour se dire, en fait, c'est pas parce que je suis enchaîné au fond d'une cage que je ne suis pas libre, parce qu'en fait la liberté, elle est dans mon esprit, et en fait mon corps, il n'est pas dépendant de moi, donc vous pouvez l'attacher, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, dans ma tête, je reste libre. Et donc, c'est vers cette forme de sagesse que j'ai l'impression que les stoïques cherchent à nous emmener. Et effectivement, quand on y pense, on se dit, pourquoi pas, en fait.
Oui, mais toujours est-il quand même qu'on est dans un monde où on essaye d'éviter tout ce qui est blessure, tout ce qui est douleur, tout ce qui est... tout un tas de choses comme ça, finalement. Et puis, comme tu dis aussi, l'histoire de le corps ne nous appartient pas, alors que quand on voit tous les efforts qu'on fait pour essayer d'avoir un corps qui, justement, nous plaise, ça paraît totalement contradictoire.
Oui, bien sûr, mais parce que finalement, on cherche à avoir un corps qui nous plaise, mais pourquoi ? Ah. Pourquoi on cherche ça ? Parce qu'on pense que ça va nous rendre heureux. Voilà, alors qu'un stoïque te dira, non, en fait, tu n'as pas besoin de ça pour être heureux. Tu peux décider d'être heureux là, maintenant, tout de suite. C'est ça, en fait, la grosse différence. Et d'où les représentations, une fois de plus. Parce qu'on fait la représentation qu'être beau, être belle, être musclé, bref, ça va nous rendre heureux. On a cette représentation-là. Et voilà, donc vraiment, mais une fois de plus, tu vois, on le dit, mais je sais pas, suivant les oreilles dans lesquelles ça est en train de tomber, tu vois, comment chacun interprète cette idée, comment il l'infuse et comment il ou elle va pouvoir l'utiliser demain, moi.
Mais en fait, c'est très dur de savoir, parce que chacun va prendre des trucs. Alors, je le dis en plus, hein, pour ceux qui se posent la question, le bouquin, il est... Bon, bien sûr, il est dans le domaine public depuis des années. Hein. la version poche, elle coûte 3,90€. Tu vois, j'ai vérifié le prix. Je sais qu'on trouve des versions numériques gratuites, même en téléchargement, etc. Donc, il n'y a pas un problème de droit d'auteur ou quoi que ce soit dessus. Donc, voilà. Chacun peut aller piocher dedans. Et comme tu dis, je veux dire, on pourrait avoir tous le bouquin sur une étagère, prendre tous les matins, on tire au pif une page, prendre une pensée et de voir comment on la réfléchit, en fait. C'est un effort. Mais après, bien sûr, comment on l'intègre, c'est encore différent. Mais je veux dire que ce qui m'intéresse aussi dans cette logique-là, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, c'est de dire que finalement, on peut aller piocher des petits éléments. On n'est pas obligé de tout prendre non plus. D'ailleurs, il y a des trucs... qu'on va peut-être mettre beaucoup de temps à prendre. Et je suis sûr qu'il y a des trucs que toi, tu parlais de ces notions de corps, etc. Mais il y a peut-être d'autres choses. Tu te dis, bon, ça, c'est compliqué à intégrer quand même.
Oui, bien sûr. Et il y a des choses aussi que tu comprends différemment au fil du temps ou que tu interprètes différemment. C'est toujours compliqué, cette notion-là. Tu as, par exemple, pareil, une idée fondamentale, c'est de chercher à être en accord avec la nature. Mais ça, là, pareil, en le disant spontanément, on va chacun imaginer ce qu'il y a derrière nature. En fait, aujourd'hui, la conclusion à laquelle moi j'arrive, c'est que là-dedans, il faut comprendre qu'il faut être en accord avec sa nature propre, la nature aussi autour de nous. Et donc, pour moi, ça casse l'image de « il y a un idéal de sagesse auquel on doit arriver par le stoïcisme, de la grande barbe, c'est pour ça que je l'ai, la toche blanche, etc. » Non, pas du tout. En fait, c'est d'être cohérent avec sa propre nature. Et la mienne va être différente de la tienne et d'un autre, etc. Mais ça, voilà, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Je suis évidemment incapable d'aller demander à Épictète s'il est d'accord avec moi. Et je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait la vraie réponse à ça. Peut-être, hein, enfin, une fois de plus, là, on parle de ça, mais je suis encore plus qu'un newbie sur le sujet. Mais voilà, aujourd'hui, moi, quand je lis ça, bah, je me dis, oui, ok, il faut que je sois en accord avec ma nature, et ma nature va peut-être m'amener à faire des choses qui vont pas plaire à un tel, à un tel, à un tel, mais en fait, peu importe, parce que c'est hors de mon contrôle, ça ne me concerne pas.
Oui. Mais c'est un point, c'est vrai que c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Tu vois, c'est là aussi où on revient sur plein d'autres trucs, sur finalement les suppositions qu'on peut faire sur ce que les autres vont penser de nous. Est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, etc. Et j'imagine en plus que toi, sur des projets, on avait parlé de certains de tes projets, certaines de tes idées, tes micro-défis, tu peux te dire, il y en a certains qui doivent te prendre pour un fou, mais ça doit pas t'empêcher toi de le faire.
Oui, 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 tout à fait. Mais malgré tout, évidemment que, comme tout le monde, je suis sensible à la vie, aux opinions que les autres peuvent se faire de moi ou que j'imagine qu'ils pourraient se faire de moi. Évidemment, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je me vois avoir ce schéma mental. Je me vois penser ça. Et en fait, ça change tout. Et ça fait partie du chemin, justement. Et ça aussi, c'est un point que j'aime beaucoup dans cette philosophie, c'est qu'à aucun moment, elle exige une perfection. Au contraire, elle est bien consciente que c'est un chemin dont l'objectif est presque inatteignable, en fait. Mais peu importe, en fait. Ce qui compte, c'est d'avancer sur ce chemin, d'utiliser ses erreurs pour en faire quelque chose. Pareil, une fois de plus, des trucs qu'on voit partout. mais vraiment, c'est ça, là. Et tu vois, une des pensées de Marc Aurèle que j'ai vraiment aimé sur l'Atlantique, c'est celle où, non, pareil, je vais pas la dire entière, c'était l'air un peu longue, mais l'idée, c'est de dire, en fait, ce que lui appelle le maître intérieur. Il dit, voilà, ce maître intérieur, quand il se conforme à la nature, quoi qu'il se passe, il a la capacité de modifier son opinion envers ce truc et d'en faire une matière pour qu'il puisse en faire quelque chose. Mais dans sa pensée, il rajoute que oui, ça, il peut toujours le faire, mais selon la possibilité qu'il en a. Et bah, typiquement, moi, sur l'Atlantique, je peux t'assurer que des fois, selon la possibilité qu'il en a, c'était réduit à pas grand-chose. Parce que j'étais à un niveau de fatigue, d'épuisement, de plein de choses, qui faisait que mon esprit n'avait pas beaucoup de capacité. Mais malgré tout, bah, j'essayais d'y aller. Et cette pensée-là, bah, elle montre bien qu'à un moment, le philosophe de l'époque accepte que bah non, on n'est pas parfait, en fait, quoi, et qu'il faut accepter ses erreurs et essayer de construire dessus.
C'est super intéressant parce que il y a aussi une pensée que tu avais pointée sur finalement de dire les moments où tu pestais sur ta situation. Alors c'est l'une des petites phrases de Marc Aurèle. Alors ça doit être la 5, hein, je crois, dans ta liste, ce que tu avais marqué, c'est chasse dehors l'opinion et tu seras sauvé, qui donc t'empêche de la chasser. Et tu disais que ça t'aidait notamment dans les moments où tu pestais sur cette situation, dans laquelle en plus tu t'es mis volontairement, j'ai envie de dire, en plus, alors même si après tu n'imagines pas vraiment comment tout va se passer, mais même quand on se lance dans des défis comme ça, tu ne peux pas imaginer tout ce qui va se passer, comment ça va se passer réellement, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, t'es incapable de savoir, et ça fait partie des choses aussi de la préparation. C'est, tu imagines tout ce qui peut se passer, tu imagines qu'est-ce que tu fais dans ces situations, et tu essayes d'imaginer ce que tu feras quand il se passera quelque chose que tu n'as pas pu anticiper. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que moi je fais systématiquement, qu'on a fait pour la traversée, etc. Là, cette idée-là, donc il dit chasse dehors l'opinion et tu seras sauvé, et qui pose la question aussi, qui dit finalement qui est-ce qui t'empêche de chasser cette opinion, elle est très forte. Et moi, elle m'a aidé, un exemple hyper concret, c'est de se dire il y a une météo déchaînée dehors, il pleut, il y a du vent, il y a des vagues, c'est difficile, qu'est-ce que je fais? Alors soit je peste, soit je me mets en colère parce que c'est inacceptable, j'en ai marre, j'ai mal. Mais qu'est-ce que ça va changer? Je peux crier aussi fort que je peux, ça ne changera absolument rien à la météo. Par contre, cette opinion que j'ai que cette météo est mauvaise, je peux décider de la changer. Je peux décider de me dire, alors je dis pas, je suis pas partisan de tout est beau, tout est joli, il y a aucun problème, mais je peux juste accepter en fait que c'est neutre, que c'est comme ça et il faut que je fasse avec. Voilà, juste ça en fait. Je vais pas me dire que c'est les meilleures conditions de la Terre, parce que c'est pas vrai, mais juste me dire qu'en fait, bah, c'est pas un sujet, et que mon énergie, je vais l'utiliser à faire autre chose, à savoir, bah, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est en mon contrôle, pour, bah, essayer quand même d'avancer, d'être en sécurité, etc., etc.
Mais tu vois, alors ça, c'est marrant parce que normalement, tous les épisodes de podcast, en ce moment, je les commence en demandant comment tu vas, est-ce qu'il fait beau chez toi, etc. Je t'ai pas posé la question parce que justement, la météo fait partie des choses que tu peux pas contrôler. Et c'est intéressant de dire, ça sert à rien de pester contre la météo. Tu sais, moi, je suis entouré de gens qui pestent contre la météo. Il fait trop froid, il fait pas assez chaud, il fait trop chaud, il fait ça, etc. Et là, en ce moment, alors jeudi, parce qu'on enregistre le 23 juillet, moi, je sais pas combien t'as chez toi. Ici, on a 37 degrés. Donc, normalement, c'est pas un temps à aller courir, etc. Et sur Instagram, c'est rempli de gens qui disent, oh là là, mais faire une préparation semi et marathon, plein été, etc. et tout. Bon, j'ai envie de dire, tu le sais, quoi. C'est les risques, un petit peu.
C'est clair.
Mais justement, c'est là où on peut se dire aussi, puisqu'on peut pas changer la météo, on peut changer comment on va la voir et comment on va s'adapter à cette météo.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Comment tu vas t'y adapter? Et surtout, une fois que tu es dans l'action, que tu as décidé d'y aller et que tu y es, bon, bah, il y a un moment, tu peux rien y faire. Donc, juste accepte-le. On n'a pas dit que c'était facile. On n'a pas dit que voilà, tu ne vas pas avoir des crampes, avoir je ne sais pas quoi. Mais juste accepte-le, quoi. Et quand la crampe, elle arrivera, si elle arrive, bah, en fait, tu l'acceptes. Tu es parti. Tu ne peux plus rien faire contre ça, quoi. Donc tu fais avec, quoi. Et qu'effectivement, la question que pose Marc Aurèle en disant qui donc t'empêche de la chasser, c'est amené à réaliser qu'en fait, oui, personne ne va venir dans ta tête enlever cette idée pour en mettre une autre. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est la seule chose qui est en ton contrôle, et donc bah juste fais-le, quoi. Enfin, il faut se rappeler que Marc Aurèle, il faut juste rappeler que il a écrit ça, c'est quelque part son journal intime. Il n'a pas écrit au départ pour être publié ou quoi que ce soit. Il a écrit ses pensées pour lui. C'est pour ça que ça s'appelle Penser à moi-même. Donc quand il écrit ça, il se le dit à lui. Donc ouais, il se pose à lui-même la question. Alors maintenant, reste à savoir s'il se l'écrivait en pensant sur un ton ironique ou pas, j'en sais rien, mais voilà, faut quand même se rappeler ça.
Ouais, finalement, j'ai pas trop cherché de savoir à quel était son, à quel moment, enfin pourquoi il avait écrit. Est-ce que c'était une philosophie, de réfléchir à finalement à sa journée, de comment il le voyait, de comment il fallait qu'il se comporte mieux peut-être pour mieux vivre le moment, parce que on est dans des moments où il y a des révoltes, il y a des guerres, enfin c'est des moments qui sont tourmentés, etc. En plus, donc peut-être qu'il avait aussi besoin d'avoir une vision de vie plus facile.
Ouais, je pense que c'est compliqué de recoller les morceaux si longtemps après. Moi, ce que j'en ai compris, mais pareil, c'est une analyse extrêmement personnelle, c'est que Marc Aurèle a découvert le stoïcisme, s'y est intéressé bien avant d'être empereur. Il s'y est vraiment beaucoup intéressé. Il est devenu empereur un peu malgré lui, c'est pas sa volonté, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était juste sa nature. Voilà, il devait faire ça, c'était sa tâche d'homme, et donc il s'y est collé, quoi. Et j'ai l'impression du coup que ces écrits, c'est en quelque part un peu son carnet de bord, son carnet de suivi de est-ce que j'applique bien justement cette philosophie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si on doit considérer Marc Aurèle, et plein d'ailleurs ne le considèrent pas, comme un philosophe stoïque. Effectivement, c'est quelqu'un qui a appliqué, mais ce n'est pas un philosophe stoïque, il n'a pas construit d'idées stoïques. Et voilà, il a suivi Épictète, donc voilà, effectivement, je pense qu'il y a aussi une grosse part d'inconnu autour de ça, mais sa vie est assez intéressante.
Ouais, mais en plus, je pense qu'il y avait aussi une recherche de bien diriger, c'est-à-dire de pas diriger sur le coup de la colère. La haine,
C'est
pas
ça.
partir en guerre contre des gens, mais on peut le retrouver aussi dans le sport, parce que tu vois, je lis Born to Run en ce moment, et dans Born to Run, dans certains récits, tu sais, ils disent, ouais, que la coureuse, elle a voulu courir beaucoup plus vite, tu vois, pour que les Indiens mexicains, ils arrivent pas à la suivre, tu vois, lui mettre un coup d'épaule. En plus, ce qui est bidon, parce qu'elle dit que ça ne s'est jamais passé, et que l'auteur lui a jamais demandé, qu'il n'était pas là, qu'il n'a pas vu comment ça s'est passé, etc. Mais dans le sport, tu peux retrouver cette logique un petit peu et puis souvent, en plus d'ailleurs, tu as des termes de guerre, alors, en course à pied, pas trop, mais tu vois, moi, nous, clairement, avec le rugby, on voit beaucoup cette histoire-là, dire ça va être la guerre, faut se taper dedans, etc. T'as le combat, tu as cette notion-là. Et tu vois des gens se battre, d'ailleurs, on l'a même vu sur des stades d'athlétisme, des gens qui se battaient, d'ailleurs. Donc, c'est des trucs qui est déjà arrivé. Et donc, tu peux te dire aussi que, même aussi dans le ressenti que t'as, par exemple, de ton effort, d'une compétition aussi, tu vois, il y a des choses, tu pourrais les piocher dans, justement, cette philosophie.
Oui, bien sûr. Après, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, à cette maxime qui dit selon la possibilité que tu as, quoi. Et effectivement, je pense que quand t'es là, les JO ont démarré, quand t'es au JO, t'as travaillé pendant des années pour ça, t'es dans des conditions particulières. Donc tes possibilités, à un moment donné, d'agir sur ton esprit, elles doivent aussi être un peu limitées. Et puis encore faut-il que tu t'aies posé cette question un jour, que tu, enfin voilà, il y a plein de choses. Mais effectivement, une situation comme ça. Alors bon, je suis mal placé pour en parler parce que je fais pas de sport d'équipe ou de compétition ou tout ça. Donc vraiment, j'aurais arrêté de parler là du coup. C'est comme pendant le Covid, tous ceux qui disaient, moi je suis pas médecin, mais je pense que. Tout ça pour dire que le stoïcisme va aussi nous inviter à réaliser, et de nouveau ça revient aux représentations dont on parlait, que finalement on n'est absolument rien, quoi. On est un être humain sur une planète minuscule au milieu d'un, même eux parlaient déjà, tu vois, d'un cosmos immense et tout, et qu'en fait on fait partie d'un organisme global qui fait sa vie, et que tout comme nous de temps en temps on a un cheveu qui tombe, une cellule qui meurt, et ben il arrive des trucs à des humains sans qu'en fait ça compromette la vie du grand ensemble. Et donc dans des situations comme ça, moi aujourd'hui j'aime bien prendre ce recul, en fait, de se rappeler que en fait c'est quoi le sujet, il y en a pas, quoi. Enfin voilà, dans un grand ensemble, il y en a pas vraiment, et vraiment d'essayer de se rappeler de, bah, une fois de plus, qu'est-ce qui est dans mon contrôle, qu'est-ce qui l'est pas, d'essayer de s'il y a un échec, de voir comment on peut construire dessus et s'en servir comme un vrai enseignement. Enfin, ça amène vraiment une lecture du monde qui est extrêmement nouvelle, et voilà, je pense qu'une fois de plus, chacun se l'appropriera différemment. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le premier truc que je vois et que je ressens, c'est que je vais conscientiser tout un tas de choses que je conscientisais pas forcément avant. Dans la situation que tu évoquais, par exemple, voilà, j'imagine très bien que je verrai, tu vois, cette situation arriver. Et du coup, je me poserai la question de comment je peux la gérer. Peut-être que je la gérerai mal, hein, évidemment. Tu vois, mais en tout cas, je me pose, je le vois et je peux me poser la question.
Oui, mais tu vois, en plus, dans le sport, t'as plein de trucs. Tout à l'heure, on a une discussion avec ma femme, on regardait la cérémonie des JO d'ouverture. Elle me disait, mais ça rime à rien, ces jeux comme ça. Finalement, il n'y a pas de public, tu vois, il y a le virus. Et je lui dis, oui, mais quand t'es athlète, ça reste les jeux quand même. Enfin, tu vois, je dis, moi, regarde, à mon âge, j'aurais plus l'occasion de faire les jeux. Si j'avais une seule occasion de faire les jeux et que ce soit maintenant, même quand il n'y a pas de public, je me dis, je vais quand même tout faire pour y aller, tu vois, pour le faire, etc. Et même si les conditions sont pas géniales, même si finalement, au lieu qu'il y ait 80 000 personnes dans le stade pour applaudir, il y a juste un micro qui dise bravo, tu vois, je me dis, le moment, tu vois, d'être dans le moment, de tout faire pour arriver à aller chercher ces médailles, que certains auront mis peut-être 30 ans, enfin pas 30 ans parce qu'ils sont un peu plus jeunes, quoique dans certains sports, mais on va dire certains 20 ans, tu vois, je pense à un gars comme Lavillenie qui a Clermont, qui a 34 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Tu dis, bon, même s'il pense qu'il peut faire les JO de Paris dans 3 ans, tu sais quand même, tu vois, que c'est la dernière, c'est le truc, il se fait une entorse 3 semaines avant les JO, tu vois. Et à un moment donné, il peut se dire, putain, j'ai pas de bol, je peste contre tout. Et quand tu vois, en fait, il a fait des heures et des heures pour revenir, et là, il est parti avec ses perches, et dit, bon, bah voilà, j'ai fait un saut à 5, je sais pas combien, je suis prêt à y aller, quoi.
Ouais, mais c'est exactement ça. Et tu vois, ça me fait penser, c'est rigolo, cette histoire, je la connaissais pas, mais j'avais dû te raconter sur la Transat, où on devait partir un an avant, avec Guilhem, et où en fait, 3 semaines, pareil, avant le départ, il se casse le pouce. Donc on peut pas partir. Et donc moi, pour me resituer, à l'époque, je fais du conseil en freelance depuis maintenant 8 ans, ça marche bien et tout. Et donc moi, j'avais prévenu tous mes clients que j'arrêtais, tu vois, parce que je partais quelques mois. Donc voilà. Donc en l'espace de 2 heures, tout se redessine. C'est-à-dire que tu pars plus et je me retrouve avec un an devant moi où j'ai plus de boulot. Je sais que je repars dans un an, donc je peux pas non plus me lancer dans n'importe quel projet, machin et tout. Et donc là, en fait, pareil, t'as 2 options, quoi. Soit tu te mets par terre, tu pleures, tu cries toute la colère que t'as envers le monde entier, envers mon coéquipier, envers machin, tout ça. Certains se diront peut-être il y a un signe, il y a machin, un truc. Moi, ce que je me suis dit, ok, bon, de toute façon, c'est là. C'est comme ça. Maintenant, je fais quoi avec ? Eh ben, je vais plutôt le voir comme une opportunité. J'ai une idée de boîte, eh ben, je vais la lancer, je vais la créer. C'est ce que j'ai fait. J'ai créé Andonora, j'ai lancé. Aujourd'hui, ça grandit. Voilà, c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. Juste de me dire, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. Donc, je l'accepte. Et maintenant, j'essaie d'en faire quelque chose de bien, quoi. Mais voilà, et je pense que c'est probablement ce type de pensée, ou en tout cas ce type d'attitude qu'il a choisi d'adopter pour ses JO.
Ouais, en sachant que de toute façon, s'il tente pas le truc, il pourra le regretter tout le temps, et qu'à un moment donné, il n'y a qu'en essayant qu'il peut savoir ce qui va se passer vraiment. Là aussi, hein, je pense qu'il a dû faire taire un petit peu certaines de ses pensées, qui lui ont dit non, mais n'y va pas, tu reprendras, etc. Et puis en disant, bah non, écoute, on va bien voir ce qui se passe. Parce que, en plus, d'ailleurs, t'es pas à l'abri que l'autre aussi se blesse à côté. Je veux dire, c'est là où, dans le sport, tu maîtrises pas du tout les événements, et tu peux être très bien préparé, puis avoir l'autre devant toi qui s'est encore mieux préparé. Tu peux avoir tout un tas de choses qui font que, ou alors, parce qu'on l'a vu, pour reprendre l'exemple de la perche, mais le meilleur du monde qui fait un zéro pointé en soit la perche, c'est déjà arrivé. Donc toi, t'arrives, t'es le deuxième ou le troisième, et t'as les deux d'avant, t'en as un qui fait un zéro pointé, l'autre qui se plante et l'autre qui casse la perche. Toi, tu te retrouves quatrième, tu te retrouves champion. On l'a déjà vu, ça peut arriver. C'est comme en saut de haie, où t'en as un qui prend la haie en pleine poire, et ça peut arriver. Donc, je veux dire qu'il y a des événements que tu maîtrises pas, que tu n'as aucune chance de maîtriser, mais qui peuvent finalement bien se passer,
bien sûr,
par le simple fait d'y être et de faire tout ce que tu peux.
Bien sûr. Ouais, non, mais tout à fait, c'est ça. Hein. Dans le, il y a des trucs qui sont hors de mon contrôle. C'est aussi des choses qui peuvent bien se passer. Mais et ça, tu vois, je renvoie à ce qu'on disait. De, je sais plus si on en a parlé de celle-là, mais ici, quand on dit voilà, passe un jour comme si c'était le dernier, en évitant l'agitation, la torpeur, la dissimulation, c'est aussi éviter l'agitation mentale, de se dire ah mais peut-être que il va être moins bon, peut-être qu'il s'est super entraîné, peut-être. En fait, t'en sais rien, t'as aucun contrôle dessus. Donc juste focus-toi sur ton entraînement à toi, sur ce que tu peux faire là maintenant. Tire le maximum, et comme te dira Marc, en te disant fais comme si ce jour-là c'était le dernier, et ben fais le meilleur entraînement que tu peux faire aujourd'hui. Va au bout du bout du bout pour que ce soir en te couchant, tu te dises je pouvais pas aller plus loin, de toute façon j'ai fait tout ce que je pouvais. Voilà. Et là tu mets tes chances de ton côté. Ce qui se passe autour, t'en sais rien et tu pourras rien faire dessus de toute façon.
Il y a un truc aussi, tiens, qui est super intéressant, et ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens aussi, parce qu'on a des relations à gérer, on n'est pas tout seul dans notre monde, hein, on est entouré. T'as pointé la phrase qui dit personne ne se lasse de recevoir un service. Et tu es, alors la phrase complète, on la retrouvera sur le blog, mais tu dis que tous les matins, tu proposais un café à ton coéquipier, tu lui demandais si tu pouvais faire quelque chose pour lui, etc. Cette relation, finalement, cet entretien d'une bonne relation, c'est un élément. Alors, bien sûr, là, vous étiez sur une coque de noix, deux au milieu de l'Atlantique. Donc, tu vas me dire, il faut quand même finir par bien, il faut bien s'entendre. Mais je t'avais posé la question, je t'avais dit, est-ce que vous parlez encore? J'ai démarré l'épisode comme ça la dernière fois. Donc, je me dis, là aussi, c'est que tu as une philosophie, finalement, de la gestion avec ton entourage qui est aussi présente dans le stoïcisme.
Oui, bien sûr. Et c'est une notion très forte qui effectivement amène à se développer soi, mais aussi et surtout à faire pour l'ensemble. Ça, c'est une notion qui revient quasiment tout le temps. Et là, ça rejoint d'autres idées à la fois, je pense, de psycho et de développement personnel et de tout ça, qui dit, avant d'essayer de voir comment tu peux être bien dans le monde, sois déjà bien toi, en fait. Parce que tant que t'es pas bien toi, tu peux pas contribuer positivement à ce qui t'entoure, quoi.
Ouais. Ouais, c'est le fameux masque à oxygène dans l'avion, en fait. Hein. On dit toujours qu'il faut d'abord te sauver, bien respirer toi pour aider à respirer les autres.
Hein. Exactement. Et donc, cette idée-là que tu citais, elle va dans le sens. Elle dit, en fait, voilà, s'il y a un truc que tu dois faire, une fois que tu es bien, ou même sur le chemin d'aller bien, c'est juste, fais pour les autres, quoi. C'est pour les autres, jamais au prix de t'oublier toi, parce qu'une fois de plus, si tu t'oublies toi, bah, tu retombes dans ce problème de mal faire pour les autres. Mais voilà, évidemment, c'est quelque chose qui est très présent et qui rejoint l'idée que je te citais tout à l'heure, qui est de dire, voilà, en fait, on fait juste tous partie d'un méga ensemble, et bah, donc du coup, il faut qu'on collabore, quoi. C'est tout.
Mais tu vois, là où c'est important, c'est intéressant parce que, notamment, c'est par rapport à la vie de famille. Parce que toi, t'es marié, t'as deux enfants, donc tu fais je ne sais pas combien d'heures de sport. Quand tu es parti faire ton aventure là sur le Ventoux, t'es parti quelques heures. Mais quand t'es parti à l'Atlantique, t'es parti. Combien de temps ça a duré déjà?
47 jours en toute traversée, mais plus voilà une semaine avant le départ. Donc bon, on va dire 2 mois, quoi.
Ouais.
2 mois.
Et donc pour, c'est vrai que pour l'entourage, pour la famille, pour les enfants, etc. Il y a plein de choses qui jouent. Et au bout d'un moment, parce que combien j'ai entendu de témoignages de gens qui disaient, oh j'en supporte plus avec son vélo, il me casse les, j'en ai marre, il est jamais à la maison, etc. Je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois. J'ai même dans mon entourage quelqu'un qui a divorcé à cause de quelqu'un de ça, tu vois. Donc pour le sportif, faire attention aussi à son entourage et se dire que bah oui non on doit faire notre sport, mais que notre entourage il a aussi besoin de vivre, j'ai envie de dire, c'est aussi extrêmement important.
Ouais, non, bien sûr, c'est évidemment extrêmement important. Après voilà, là du coup on parle beaucoup du développement de soi. Mais en fait, pour reprendre l'exemple du couple, le développement de soi, c'est mon développement à moi et celui de mon conjoint. Ouais. C'est qu'en fait, il faut que l'autre en fasse aussi ce chemin, parce que sinon, lui va être dans ses représentations de bah, « en fait, s'il part faire du vélo tout le temps, c'est qu'il m'aime pas, c'est qu'il a mieux à faire ailleurs ». Non, en fait, c'est pas ça, mais en fait, il faut faire aussi ce truc-là. Et une fois de plus, on rejoint le. En fait, il y a un moment, moi, en tant que moi, il y a des choses que je peux faire et des choses que je peux pas faire. Et souvent, dans le couple, ou même en famille, on essaie de bien faire. On va essayer d'aider, on va essayer de. Mais il y a un moment, il y a des choses qu'on peut pas. En fait, il faut accepter qu'on peut pas, c'est à l'autre de faire. Ce travail, tout comme évidemment, tu vois, moi quand j'ai découvert le stoïcisme, je trouvais ça tellement génial, j'ai essayé d'en parler à mes filles et tout, donc maintenant elles supportent plus quand je prononce le nom d'Épictète ou de Marc Aurèle, et en fait je réalise qu'aujourd'hui, en fait, je pourrais leur en parler tant que je veux, peu importe, il faut qu'elles fassent leur expérience, avec les hauts, avec les bas, avec tout ça, mais il n'y a pas le choix, il faut qu'elles fassent leur expérience, quoi. Mais oui, évidemment, ça, c'est là, ça existe, et malheureusement, il y a des choses, on ne peut pas agir dessus. Après, voilà, si je pars, je parle pas de moi, mais je prends un cas, si je pars tous les jours courir 2 heures, ça cache peut-être autre chose que je veux pas m'avouer parce que j'ai mes propres représentations de machin, de trucs, il y a peut-être aussi un problème là. Mais bah, toutes les situations sont tellement différentes, malheureusement ou heureusement, que on peut difficilement sortir une recette miracle.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'il y a tellement de cas. Puis tous ceux qui veulent faire des défis. Alors là, tu vois, t'as parlé de certains de tes défis. Puis je renverrai sur l'autre épisode, c'est vrai, parce que tu parlais de tes micro-défis. Parce qu'il n'y a pas que des départs à l'autre bout du monde, quoi. Il y a juste partir le soir du travail, rentrer le lendemain au travail en ayant passé la nuit dehors. Ce que tu avais raconté. Toutes ces choses-là qui sont extrêmement intéressantes. Et c'est là où ça inspire beaucoup de gens, tu vois, où tu regardes un petit peu les trucs. Et. Tu te dis bon bah finalement comment aussi j'arrive à les développer moi, à développer aussi pour que bah finalement mon entourage ils comprennent aussi, que j'arrive aussi à leur permettre à eux aussi de développer leurs propres choses, etc. Et c'est là où c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir que le stoïcisme il s'arrête pas juste à sa pensée à soi, mais vraiment comment on est placé par rapport à ce système global comme tu disais.
Ouais. Ouais, donc c'est vraiment, voilà, moi je te dis, j'en tire vraiment des enseignements et surtout des choses actionnables tous les jours, au quotidien. Après, si je reprends ma théorie de, tu vois, un message unique et différents packaging, peut-être que le stoïcisme, c'est le packaging qui me va bien à moi. Mmh. Voilà, et que peut-être toi, ce sera, je sais pas, le bouddhisme ou autre chose, ou n'importe quel gourou de développement personnel. Et voilà, donc effectivement, moi, je retrouve tout ça, je trouve des outils pour m'aider là-dedans. Maintenant, voilà, chacun voit midi à sa porte, et on ne peut que souhaiter que chacun trouve ce cheminement vers finalement ce que cherche cette philosophie, mais aussi les autres, que ce soit la philosophie épicurienne ou d'autres, ce que ça cherche à faire, c'est hyper simple, ça sert juste à nous amener vers le bonheur, absolument rien d'autre. Voilà, si on arrive à ce point-là par d'autres chemins, parfait.
Ça ferait une belle conclusion, mais j'ai quand même une dernière question à te poser. C'est que là, on a parlé, tu vois, dans les défis, etc. Mais dans tes entraînements, parce que là, je t'ai vu l'autre jour, on disait que tu allais courir. Je t'ai vu Puis t'as ton application, dont on rappellera le principe, mais pour l'avoir testé, je t'ai presque maudit le jour où je l'ai testé quand même, parce qu'à un moment donné, tu m'as fait faire des, je sais plus quoi là, à un moment donné, et puis c'est un jour il faisait chaud et tout, puis tu sais, moi je revenais juste de blessure et tout, et bon bref, je sais plus ce que c'était comme exercice, j'ai dit bon là encore, Lilian, merci pour le truc, et les gens m'ont regardé super bizarrement, parce que, alors je raconte, non, vas-y, alors
Normal.
tu vas présenter ton application, parce que comme ça les gens comprendront mieux, raconte, explique le principe de ton application.
Notre application, c'est surtout un concept sportif, c'est pour ça que les gens ont rigolé, c'est que notre concept sportif en Donora, il repose sur, on a une application qui va guider sur un parcours, qu'on va faire en courant généralement, mais qu'on peut faire en marchant aussi. Donc l'application, elle guide, tiens, après la pharmacie, tourne à droite, etc. Et de temps en temps, l'application, elle va dire, stop, arrête-toi. Mets-toi sur le banc à droite et sur ce banc, tu vas faire des box jumps, par exemple. Parce qu'on sait que les box jumps, ça te fait travailler l'explosivité parce que toi, tu aimes le trail, etc. Donc effectivement, tu peux te retrouver un dimanche après-midi à faire des sauts sur un banc dans un parc où il y a d'autres gens qui te regardent bizarrement. Je pense que c'est ce que tu as dû vivre.
Non, moi je me suis retrouvé à faire la chaise ou je sais plus quoi, ou des sauts sous un sapin avec des épines et
Ça
tout.
va, ça c'est ça. Non, quand on crée les parcours, blague à part, on est justement très vigilant à proposer des ateliers seulement dans des zones que nous on appelle socialement acceptables. C'est-à-dire, on va pas te faire faire des pompes au milieu d'un centre commercial où il y a du passage toute la journée.
Mais
Mais.
n'empêche, alors je vais te dire un truc, je t'avais dit, j'ai été bluffé. Parce que je mets mon casque comme ça, et puis t'arrives, et puis à un moment donné, c'est. Alors là, tu vois un panneau, et juste avant le panneau, tu prends le petit chemin sur le. Je dis, attends, comment il voit le panneau? Alors, je te demande pas de dévoiler tous les secrets, mais c'est extrêmement bluffant parce que le petit panneau, il était exactement là où tu me disais, le chemin, il était bien juste avant le petit panneau et tout, etc. Et sur le coup, je me dis, attends, mais non, c'est un coup de bol. Et puis la fois suivante, alors là, tu vois, t'as le banc, etc. Tu vas profiter. Oui, il y a le banc. Et puis là, sous l'arbre, va sous l'arbre et fais ça et tout. C'est sous l'arbre qu'il me regardait bizarrement, tu vois. Et je me suis dit, là, c'est pas possible. Il est venu dans ma rue pour repérer le truc ou y a un truc qui cloche, tu vois.
Ouais, non, mais effectivement, et ce commentaire-là, on l'a quasiment systématiquement. Les gens qui nous disent, mais j'ai cru que vous m'espionniez, comment vous avez pu faire pour savoir et tout. Et ça, c'est un truc hyper important pour nous, si tu veux. Des applications qui font du running guidé, des choses comme ça, il y en a plein. Mais à chaque fois, elles utilisent les technos standards où ça te dit dans 200 mètres, tourne à gauche, machin. Ça, c'est bien quand tu es en voiture, mais quand tu cours la rue qui va légèrement à droite, c'est-à-dire tu sais pas laquelle c'est, donc tu passes ton temps sur ton téléphone, c'est compliqué. Nous, on voulait vraiment qu'avec l'audio, on puisse tout faire et on s'est toujours dit, on va guider l'utilisateur par des éléments visuels que tu vois quand tu es en train de courir. Et donc, quand on dit qu'il y a une pharmacie, bah, c'est qu'il y en a une et que tu peux pas la louper, quoi. Donc, c'est vraiment c'est ça qu'on a toujours un peu de mal à expliquer, tu vois, quand on explique le concept. Et c'est pour ça que j'invite toujours à dire, mais allez tester, parce que c'est là où on voit vraiment la différence. Et donc, effectivement, je ne traduirai pas les secrets de fabrication, mais on passe beaucoup de temps au démarrage. Et c'est pour ça que notre modèle économique, c'est de proposer ce service à des villes, à des entreprises, à des salles de sport, à des événements sportifs où on va pouvoir vraiment passer du temps à explorer la zone pour après mettre à disposition gratuitement aux utilisateurs des parcours qui sont taillés vraiment sur mesure et parfaitement fonctionnels.
Ouais, parce que c'est drôle, parce qu'à la fin, il y a une porte. Quand tu arrives face à la porte de garage rouge, tu tournes à droite. Oui, elle est là. Je dis, alors c'était le truc, tu sais, juste avant l'arrivée, je dis, bon, allez, là, c'est bon, j'ai compris mon histoire de truc, etc. Mais c'est vrai, et c'est extrêmement bluffant. Et alors, ce que je me suis dit, c'est, parce que dedans, tu mets des petits encouragements en plus dedans. Est-ce que tu vas mettre des encouragements? Je me rappelle plus tenir des encouragements, mais est-ce que tu utilises le stoïcisme pour encourager un peu les gens dedans?
Non, on l'utilise pas dedans parce que pour la même raison que ce qu'on disait tout à l'heure sur tous les trucs qu'on va passer sur Instagram, c'est que balancer une citation stoïque comme ça pour la balancer, bof quoi. Enfin, c'est pas notre ADN. Par contre, maintenant, moi, dans ma manière, si tu veux, de développer cette entreprise, de la piloter, évidemment que le stoïcisme fait partie de mon quotidien. Et dans mon quotidien, comment ça s'applique, dans mon quotidien d'entrepreneur ou de dirigeant, c'est de dire, tiens, il y a ce concurrent ou ce pseudo-concurrent qui essaye de faire la même chose. Je le vois comment, le truc? Je le vois comme un truc qui me terrifie et qui me paralyse. Je le vois comme un truc qui me booste pour faire quelque chose. Je considère que c'est pas un sujet. Bref, de m'amener à me poser ces questions-là. Ça m'amène aussi, d'un point de vue plus pro-perso, à me dire, en fait, qu'est-ce que je veux faire moi au travers de cette entreprise? Ce que je veux faire moi au travers de cette entreprise, c'est de moi grandir, c'est c'est de elle la faire grandir. Et je sais plus, je crois que c'est Coluche qui disait ça, qui disait en fait le succès, c'est pas d'arriver au succès, c'est d'y être arrivé. C'est ça le truc. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce qui compte, c'est pas l'arrivée mais le voyage, enfin tout ce truc-là. Mais une fois de plus, voilà, c'est le cliché de la citation qui va bien. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je le vois pas comme une citation qui passe parmi tant d'autres. Je le vis vraiment, quoi. Et je me dis, j'ai de très grandes ambitions, et avec mon associé, on a de très très grandes ambitions sur cette entreprise. Pas parce qu'on veut que ça fasse X millions de chiffres d'affaires, non, parce qu'on veut y arriver. On veut l'emmener et on veut apporter ce truc là qui a plus lien avec le minimalisme, mais qu'on retrouve aussi dans le stoïcisme, de dire en fait, pour te sentir bien dans ton corps, t'as pas besoin de grand-chose, t'as tout qui est déjà disponible dehors. Donc nous, on va juste t'amener la petite brique logicielle qu'il faut pour t'y amener, mais en fait tu pourrais très bien y aller tout seul, quoi. Et si au bout de 2 ans tu laisses tomber l'application et tu te débrouilles tout seul, j'ai envie de dire parfait, je devrais pas le dire en tant que chef d'entreprise, mais peu importe, si on arrive à faire bouger les gens et faire en sorte qu'ils se sentent mieux grâce à ça, ben on a tout gagné.
Bah écoute, c'est une très belle philosophie en tout cas. On a fait un bon tour, tu vois. Ça m'intéressait vraiment de voir, parce que c'est vrai que c'est un sujet, tu vois, qui m'interpellait. Ça fait un bout de temps que j'en parlais aux abonnés, en fait, de leur dire, écoutez, il faut qu'on fasse un épisode sur le stoïcisme, etc. Et on n'en avait pas du tout parlé dans le premier enregistrement. Tu m'avais pas du tout raconté cette histoire-là. Non. Tu étais avec ton livre là, de Marc Aurèle et tout sur le bateau. Bon, il a pas pris l'eau, hein, il est revenu.
Il est revenu, il commence à être un peu abîmé, mais j'y tiens beaucoup. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, et j'en parle assez peu, et je te remercie de me donner l'occasion d'en parler largement, parce que ça aussi, c'est un principe stoïque qui est dit, franchement, Épictète, pour le coup, a des traits d'humour, pareil, d'une modernité hallucinante. Et je sais plus ces mots, mais il dit si tu veux être un homme bien, ou je sais plus comment il dit, ce qui compte, c'est pas que tu sortes des belles citations stoïques, il faut que tu les incarnes. Et il fait la comparaison avec des moutons. Il dit, le mouton, pour montrer qu'il a bien mangé, il a pas besoin de vomir devant toi son herbe, il a juste besoin de montrer qu'il a de la belle laine. Et du coup, c'est vrai que, tu vois, parler de ça, je suis personne pour parler de ça, tu vois, j'ai pas la légitimité a priori d'en parler, donc c'est vrai que c'est un truc que je vis, et aussi c'est vrai que j'en parle assez peu, dans le sens où c'est ce qu'on dit depuis le début de cet épisode, t'as beau balancer des idées, des choses comme ça, c'est à chacun de faire son chemin vers ce truc et de se l'intégrer ou pas, suivant qui veut le faire, suivant qui ressent qu'il peut le faire.
Oui, et c'est vrai que, en plus, c'est vrai qu'Épictète, il y a de l'humour et tout, il y a des comparaisons. Quand il parle de l'histoire du cheval, tu vois, là, j'avais marqué l'histoire du cheval, tu sais, tu dis, je suis fier d'avoir un beau cheval.
Oui.
Tu dis, mais pourquoi tu t'enorgueillis finalement de. C'est ton cheval qui devrait s'enorgueillir d'être beau, mais il le fera pas. Bien et sûr, c'est vrai que c'est plein de trucs comme ça. Tu pourrais dire que les humoristes pourraient reprendre, en fait. En faire des sujets de blague aussi, parce que ça pourrait vraiment porter à faire des blagues aussi, vraiment dans
ah ben oui, et ça sera une dernière, j'arrête après avec les citations, mais il y en a une, pareil, j'ai pas les mots exacts, mais il dit, voilà, si quelqu'un vient te voir en disant qu'on a dit du mal de toi, en fait, ris plutôt et dis-lui, bah, s'il a dit que ça, c'est qu'il me connaît pas bien, quoi. Voilà. Tu te dis, c'est un mec qui a écrit ça il y a genre 2000 ans, quoi. Et c'est vraiment une blague que tu pourrais sortir, quoi. Donc c'est là où je parle d'idées actuelles, modernes, et c'est vraiment ça qu'on trouve. Et voilà, pour reboucler sur le début de l'épisode, moi ça m'a bluffé. Ça a déconstruit l'image que je pouvais avoir de la philosophie. Et je pense qu'effectivement, les philosophies antiques n'ont rien à voir avec les philosophies actuelles, plus ou moins modernes. Mais je pense qu'effectivement, elles étaient vraiment orientées vers quelque chose de pratique, qui avait une volonté d'amener les gens vers un bien-être et un bonheur, et qu'aujourd'hui, on est sur d'autres concepts, et c'est vraiment extrêmement surprenant.
Ouais, et je pense qu'elles sont aussi, tu l'as dit, hein, sur l'expérience, en fait, sur de ce qu'on apprend de l'expérience, et de faire l'expérience des choses pour arriver justement à voir les choses différemment. Et on revient sur ces histoires d'histoire, de suppositions, de trucs, comment ça va se passer, etc. Et de comment finalement il faut se jeter dans l'expérience finalement pour voir réellement ce qui va se passer plutôt que de se raconter les histoires de comment on pense que ça va se passer. Et ça, je crois que c'est une des grands trucs qu'on retient. Et puis, je le dis, hein, franchement, c'est un livre. Donc, il coûte, hey, vraiment, tu vois, j'ai regardé la version de poche, j'ai sous les yeux, 3,90. C'est même pas un gros investissement, je veux dire, tu vois.
C'est imbattable.
C'est imbattable, je veux dire que t'as même pas, tu peux même pas te dire, ouais, il est cher, il est gros, il est pas extrêmement gros en plus, tu vois, t'as pu le traverser, tu peux. Même ceux qui font du vélo, ils pourraient l'amener avec eux. Alors, je ne te dis pas que tu vas courir avec, etc. Mais je veux dire qu'en tout cas, tu peux mettre dans une valise sans aucun problème.
Ah oui, non, puis même si tu veux faire encore plus simple, je te dis, tu commences par le manuel d'Epictet. Manuel, c'est 36 pages. 36 pages. On ne peut pas faire plus court. Et pareil, c'est un point, une idée, avec les traits d'humour dont on a parlé, des idées percutantes. Je pense que c'est un très bon point d'entrée, et je pense qu'on n'est pas sur un livre beaucoup plus cher que celui que tu as évoqué.
Oui, franchement. Et puis déjà, je pense que déjà, rien que le premier point d'Epictète, où il parle de ce qui dépend de nous, ce qui dépend pas de nous, etc. Et notamment, c'est vrai qu'il parle de plein de choses, mais notamment la célébrité, le pouvoir, etc. Et à l'ère des réseaux sociaux, ces histoires de célébrité qui dépendent pas de nous, moi j'en parle souvent aussi en création de contenu, en disant oui, bon, bah, on peut faire des efforts pour créer le meilleur podcast que l'on veut. Il y a un moment donné, il y a aussi des choses qui font que ça peut marcher ou ça peut pas marcher, mais qu'en tout cas, il faut faire du mieux que l'on peut. Et en tout cas, tu m'as aidé aujourd'hui à faire un super épisode de podcast. Alors Lilian, je te remercie.
Génial.
Parce que ça fait la deuxième fois qu'on cause ensemble dans des épisodes. Bon, tu vois, regarde, ça fait plus d'1h10 qu'on discute. Et je me suis encore régalé, tu vois. J'ai hâte d'avoir le retour des gens dessus.
Pareil.
Dis-moi juste, où est-ce qu'ils peuvent venir discuter avec toi? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver?
Le plus simple, c'est sur mon compte Insta. Lilian, L-I-L-I-A-N underscore Doza, D-A-U-Z-A-T. Ou sinon me googliser, je ressors assez vite, mais voilà, sur Insta c'est le plus simple, et je prends vraiment grand plaisir à partager les aventures, le stoïcisme, l'entrepreneuriat, tout ça, donc avec grand plaisir. Et merci vraiment Bertrand, à toi, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir de pouvoir partager autour de ces idées, parce qu'effectivement j'ai pas souvent l'occasion de le faire, ou je prends pas souvent l'occasion de le faire. Donc merci beaucoup pour ça, et j'espère que ça plaira.
Je n'ai aucun doute là-dessus, et je vais faire une dernière recommandation. Si vous êtes dans des clubs, des mairies, des salles de sport, je ne sais pas quoi, dites-leur d'aller voir ton application. Donc je n'arrive jamais à le dire dans quel sens.
Andonora.
Andonora,
et tu t'en rappelleras, c'est la contraction de endorphine, dopamine, noradrénaline.
Oui, alors là, il faut que je travaille encore un peu plus ma mémoire, mais pour arriver à m'en rappeler.
C'est le petit cocktail, tu sais, qui fait que tu te sens bien après 20 minutes de course, tout ça. Donc effectivement, ville, salle de sport, entreprise, on fait plein de choses pour faire bouger les salariés dans leurs entreprises. Pareil, ouais, Andonora, vous venez me voir sur Insta et je vous expliquerai tout ça.
Ouais, et parce que je pense que c'est un concept qui peut plaire à beaucoup de gens, etc. Et je l'avais dit, parce que moi, quand j'ai vu ça, je dis à ma mairie, je dis, mais elle fait des aires de street workout, il y a des aires de sport, etc. Si à côté de ça, il y a en plus des petits parcours qui soient comme ça, que les gens puissent télécharger en complément de ça, ça ferait une offre qui serait vraiment super intéressante et complète, etc. Oui. Et vraiment, vraiment, moi j'étais, alors je le dis pas parce que t'es invité, etc., mais j'étais vraiment bluffé, quoi. Le truc, l'histoire de tourne le petit chemin juste avant le poteau, là, ce truc là, et la porte de garage rouge, tu vois la porte de garage rouge, et ben tu tournes à droite à ce moment là, je dis waouh, là vraiment, c'est bluffant, et c'est vrai hein, que je le dis encore une fois, si vous connaissez des gens, donc, ça peut être intéressant, les entreprises, etc., n'hésitez pas à leur en parler, parce que c'est vraiment un concept qui est super intéressant, et pour faire bouger les gens d'une manière différente, etc., je trouve que c'est vraiment génial. Vraiment, moi j'étais totalement bluffé par ma petite séance que j'avais faite, vraiment, tu vois, d'ailleurs je le dis très honnêtement, hein, parce que j'avais dit à ma salle de sport, j'ai dit, ah, écoutez, ma salle de sport, faut vous mettez ça en place, ma mairie, mettez ça en place, etc. J'espère qu'en tout cas ils le feront, je te le souhaite à toi. Et en tout cas Lilian, je te remercie beaucoup 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 pour encore cet épisode avec lequel j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Et puis nous, eh ben écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine avec un invité dont je ne sais pas encore qui c'est, donc je ne peux pas te dire qui c'est, mais je suis sûr qu'on aura des belles aventures, des belles histoires, et en tout cas qui vont nous aider là encore à progresser, à avoir le sport aussi sous un autre angle et nous faire réfléchir aussi hein, sur des fois sur comment on fait les choses, pourquoi on les fait et qu'est-ce qu'on en retire et comment on le place dans notre vie. Merci à toi Lilian.
Merci Bertrand.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.